le magazine des Nations Unies.
Plus de 400 000 personnes ont fui Goma à la suite de l'éruption volcanique de Nyiragongo et des tremblements de terre. Les récits de ces drames et les conséquences sur le plan humanitaire, c'est dans cette édition. Selon l'UNICEF, environ 280 000 enfants risquent d'être déplacés à cause de la menace volcanique en RDC. L'agence onusienne précise que ces enfants pourront avoir besoin d'assistance et de protection. Son chargé de communication est notre invité. L'ONU SIDA, en campagne de sensibilisation et de prévention contre le VIH SIDA dans le Kasaï oriental, la représentante des pays de cette agence vient d'achever une mission dans cette province. Enfin, célébration de la Journée internationale des casques bleus, la MONUSCO appelle la jeunesse congolaise à s'engager pour la paix et la sécurité en RDC. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour. La grande actualité cette semaine, c'est la situation des crises qui prévaut depuis plus d'une semaine à Goma. C'est à la suite de l'éruption volcanique de Nyiragongo le samedi 22 mai et des secousses sismiques qui s'en sont suivies. Rappel des faits sur ces drames et ses conséquences dans ces récits de Maguen, lu par DJ Daddy.
D'une façon inattendue, le volcan Nyiragongo entre en éruption le soir du 22 mai. Les laves atteignent les quartiers environnants et causent beaucoup de dégâts matériels. Les habitants de Goma, pris de panique, tentent de fuir les zones les plus dangereuses. Mais ce n'est pas tout. Des tremblements de terre sont signalés, créant de fissures et détruisant certaines habitations. On enregistre au moins 400 secousses sismiques dans la ville. Dans ces chaos, plusieurs enfants sont séparés de leurs parents. La division provinciale des affaires sociales parle de 130 000 enfants qui n'ont pas encore retrouvé leur famille. Puis s'ensuit un exode de la population vers le Rwanda, mais aussi à Sake, localité située à 27 km, la ville de Goma et à Bukavu, ville voisine de Goma dans le sud Kivu. Des sources humanitaires estiment à 400 000 le nombre de personnes qui ont fui la ville de Goma. Entre-temps, la situation humanitaire se dégrade. Certains quartiers de la ville sont sans électricité ni eau et l'UNICEF craint le risque d'une épidémie de choléra et saquer les structures d'accueil de déplacés toujours en surnombre font défaut, les besoins essentiels comme l'eau et la nourriture aussi. Devant cette situation chaotique, le gouvernement et ses partenaires s'organisent pour apporter assistance et réconfort aux déplacés et selon les autorités, on compte à ces jours une trentaine de morts.
Restons à Goma. La MONUSCO réitère son soutien au gouvernement provincial dans la gestion de la crise. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, chargé des opérations de la protection, M. Kassim Diagne, l'a dit au sortir de l'audience qu'elle lui a accordé mercredi dernier le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima Constant. Ces propos ont été recueillis par Bernardin Nyangui.
J'étais venu exprimer la solidarité, mais également les condoléances les plus sincères de l'ensemble du personnel et de la représentante spéciale à son Excellence le gouverneur, et lui redire combien nous sommes prêts à accompagner les efforts du gouvernement provincial pour gérer la situation que nous vivons, qui est donc la situation des conséquences de l'éruption du mont Nyiragongo. La MONUSCO est là à côté du gouvernement dans des moments si difficiles parce que c'est Goma, c'est cette ville magnifique qui accueille tout notre personnel, qui accueille nos soldats, nos civils, et il était important pour nous de venir exprimer cette solidarité. Bien entendu, nous sommes extrêmement préoccupés à côté de cette situation évidemment de Nyiragongo qui est l'urgence. Nous sommes aussi préoccupés par les actes des groupes armés et on l'a dit déjà ici avec le gouverneur lors de la première visite de Madame la représentante spéciale que c'est un point sur lequel nous travaillons ensemble avec les forces armées congolaises. Je n'en peux pas dire plus, mais nous sommes extrêmement préoccupés par cette situation et nous allons tout faire pour accompagner les forces armées congolaises à éliminer cette menace.
Comme nous le disions, la crise à Goma a affecté notamment les enfants. Au moins 130 000 enfants ont été séparés de leurs familles et 300 seulement ont été remis à leurs parents par les autorités alors que nombre d'entre eux sont portés disparus. C'est ce qu'a indiqué la Division provinciale des affaires sociales au Nord Kivu. Cette structure étatique coordonne les actions en rapport avec les enfants, avec l'appui de tous les partenaires, notamment la MONUSCO et l'UNICEF. Sifa Maguru pour les détails.
Tous ces enfants se sont égarés lors de la débandade de samedi dernier pendant l'éruption volcanique. La chef de division des affaires sociales au Nord Kivu lance un appel à toute la population de la région afin que tous ceux qui gardent encore les enfants les signalent aux structures habilitées, notamment la Croix-Rouge, la DIVAS, Domitil Larousimbuka, chef de division des affaires sociales.
Ces enfants sont enregistrés à partir de Minova, Bweremana, Chacha, Saki et Goma, sans pouvoir oublier qu'il y a aussi d'autres enfants qui ont pu traverser la frontière. Le CICR va s'en occuper avec le CICR Kigali, avec la Croix-Rouge rwandaise et la Croix-Rouge congolaise.
Certains enfants ont connu des accidents divers dans l'errance par manque de structures d'accueil. Il ajoute que jusque-là, environ 250 enfants sont hébergés dans les familles provisoires en attendant de retrouver leurs parents. Parmi eux, 4 enfants de moins d'une année et le plus jeune de tous n'a que 3 mois. Ici, les cris d'alarme des parents désemparés. Je viens chercher mes 3 enfants, 2 garçons et une fille. Moi, je perdis 7 enfants, la moins âgée a 3 ans. Nous étions encore au marché. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Célébration de la journée internationale des casques bleus, l'événement a été marqué à Kinshasa par une conférence débat animée par un journaliste de Radio Okapi jeudi dernier à l'ISP Gombe. Le thème retenu était la contribution de jeunes dans le processus de la paix et de la sécurité en RDC. À cette occasion, des représentants des différentes composantes de la MONUSCO ont inviter les étudiants à s'impliquer dans le processus de la paix et de la sécurité en RDC. Les détails encore une fois avec DJ Dadi.
L'amphithéâtre de l'ISP Gombe a servi de cadre à ces manifestations, les orateurs de la MONUSCO à ces forums, du pilier civil du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et de forces de défense et de sécurité de la MONUSCO ont tous, au cours de leur exposé, affirmé œuvrer pour la réalisation de leurs missions respectives, conformément à la résolution 2556 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur les volets de droits de l'homme, les missions suivantes sont poursuivies: analyser la situation de droits de l'homme en RDC, faire le monitoring, rédiger des rapports et faire la plaidoirie. S'agissant de voies sécuritaires, la force de la MONUSCO apporte son appui au FARDC en termes de la reconnaissance des évacuations médicales et de la logistique. La police onusienne, elle, est engagée dans le maintien de l'ordre public. Dans les interventions, les différents orateurs ont encouragé le jeune Congolais à s'impliquer davantage pour l'événement réel et durable de la paix et de la sécurité dans leur pays, par la sensibilisation, en militant pour le droit de l'homme, en combattant le mensonge véhiculé dans les réseaux sociaux.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Fin vendredi dernier de la mission de travail de la directrice des pays de l'ONU-SIDA au Kasaï oriental, Madame Suzanne Kassédé Mouancé a conduit une forte délégation composée du secrétaire exécutif national adjoint du programme national multisectoriel de lutte contre le sida et du directeur du programme national de lutte contre le sida du ministère de la Santé. Objectif de la mission, identifier les défis dans la prévention, le traitement et l'offre des services pour la charge virale du VIH-Sida. Madame Suzanne Kassédé s'entretient avec Esther Ndalafina.
Vous êtes aujourd'hui en Mbujimayi, au Kasaï oriental. Quel est le but de votre mission en Mbujimayi?
Je suis venue à Mbujimayi dans une mission conjointe avec les leaders du programme national sur le VIH. Je suis venue avec le secrétaire exécutif national adjointe du PNMLS, le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, et le directeur du programme national pour la lutte contre le sida de la ministère de la Santé. Nous sommes venus ensemble pour engager avec les partenaires ici à Mbujimayi et les partenaires qui accompagnent soutenir le programme du VIH dans la province de Kasaï-Oriental pour apprendre de ces acteurs les résultats les plus importants qui ont été atteints et aussi pour apprendre les défis qu'ils trouvent toujours en lien avec la prévention, le traitement, l'offre de services pour la charge virale, parce que ce sont les services les plus importants pour assurer l'atteinte de l'objectif du programme du VIH, c'est-à-dire mettre fin à cette maladie d'ici 2030.
Vous avez rencontré les autorités de la province, vous avez aussi rencontré quelques structures qui sont dans la lutte contre le VIH-Sida. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de vos échanges?
Donc, nous avons échangé avec plusieurs leaders ici à Mbujimaï. Le maire de la ville de Mbujimaï nous a reçus. Il a échangé quelques inquiétudes par rapport au VIH avec nous. Surtout, il a remarqué qu'il y a une manque de visibilité des activités de VIH ici à Mbujimaï. Il y a, de son point de vue, un engagement insuffisant des acteurs clés pour faciliter alors de vraiment capitaliser sur les expériences que nous avons, les capacités que nous avons pour mieux répondre, surtout pour la prévention du VIH parmi les jeunes et les autres populations à haut risque. Nous avons engagé aussi avec le ministre de la Santé provinciale qui a noté aussi l'importance d'assurer un financement adéquat pour les activités clés pour le VIH, notamment le traitement, les intrants, pour les services diagnostiques, pour les enfants, mais aussi pour les adultes vivant avec le VIH. Il a aussi noté l'importance de renforcer l'engagement multisectoriel pour améliorer les résultats, la qualité des services et d'engagement dans les services offerts par le secteur santé. Nous avons échangé avec son Excellence Madame la Gouverneure qui nous a invité de continuer de renforcer cet engagement multisectoriel pour assurer une bonne coordination d'activités, une bonne capitalisation des ressources et des compétences parmi les acteurs et pour assurer que les leaders ont accès aux informations de bonne qualité pour informer les décisions en lien avec les besoins sur le terrain. Nous avons échangé finalement avec les acteurs clés de la société civile. Nous avons entendu encore une fois de ces acteurs-là l'importance d'avoir des cadres de concertation qui convoquent ces acteurs pour faciliter alors une participation efficace et un partage efficace parmi les acteurs pour optimiser les ressources qui sont disponibles pour la réponse au VIH.
Quelle réponse accordez-vous à toutes ces préoccupations?
L'opportunité que nous avons, c'est que si nous mettons ensemble les compétences des Nations Unies, nous avons la capacité de mieux mobiliser les ressources, de mieux orienter le programme, de mieux accompagner les acteurs clés à travers l'appui technique que nous offrons. Donc, pour nous, mettre en place un mécanisme qui facilite le partage et l'évaluation des informations régulièrement va certainement faire une grande différence.
Madame Suzanne, je vous remercie.
Oh, merci, merci beaucoup.
Commençons par le sud Kivu. Plusieurs déplacés continuent d'affluer à Bukavu. Vendredi dernier, des centaines de sinistrés ont débarqué au chef-lieu de la province, les uns dans des familles d'accueil, d'autres dans des hôtels et d'autres encore dans le site aménagé par le gouvernement provincial. Le site d'Indentere dans la commune d'Ibanda en comptait déjà une centaine. L'Union européenne alloue la somme de 180 000 euros à la Croix-Rouge de la RDC pour assister les populations sinistrées de Goma. L'annonce a été faite jeudi à Kinshasa au cours des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et une délégation de l'Union européenne conduite par l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier. Au cours de ces échanges, Samalukonde et ses hôtes ont évoqué des actions d'assistance prioritaires réalisées en faveur de la population de Goma, notamment le rétablissement de l'électricité. Nous vous parlions dans une de nos précédentes éditions de la nomination d'un nouveau commandant de la force de la MONUSCO. Eh bien, le lieutenant général brésilien Marcos de Sá Afonso de Costa est arrivé en RDC pour la prise de ses nouvelles fonctions, indique un communiqué de la MONUSCO. Il succède à un autre brésilien, le lieutenant général Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, arrivé fin mandat le 31 mars 2021.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invité est Jean-Jacques Simon, chargé de communication à l'UNICEF RDC. Beaucoup d'enfants ont été séparés de leurs parents, d'autres sont placés dans des centres de transit et familles d'accueil à la suite du chaos créé par l'éruption volcanique et des secousses sismiques à Goma. L'UNICEF et ses partenaires s'activent à assurer la protection de ces enfants et surtout les épargner du risque des choléras dans la ville et à Saké où plusieurs familles ont trouvé refuge. Jean-Jacques Simon a accepté de répondre à nos questions. Jean-Jacques Simon, bonjour.
Bonjour.
Dans un communiqué daté du 25 mai, l'UNICEF s'est dit préoccupé par la situation des enfants à Goma à la suite de l'éruption volcanique et des fréquentes secousses sismiques. Plus de 72 heures après, comment se présente la situation des enfants sur le terrain et comment se fait la prise en charge de ceux qui sont blessés?
La situation aujourd'hui, elle est la suivante. Il y a eu plusieurs milliers de personnes qui ont été déplacées, dont plusieurs milliers d'enfants qui se sont dirigés avec leurs familles vers Saké et d'autres endroits autour de la ville de Goma. Ce qui fait que ça laisse plusieurs milliers d'enfants à risque de choléra, puisqu'il y a plusieurs coupures d'eau dans la ville et ailleurs. L'accès à la nourriture est difficile. En termes de destruction, il y a énormément de destruction de maisons. Tout ce qui entrave la protection des enfants est aussi un problème que l'UNICEF regarde de très près avec ses partenaires. Il y a près de 1000 enfants qui ont été séparés de leurs parents dans le chaos qui a suivi l'éruption volcanique. Il y en a heureusement déjà 700 environ qui ont été rapatriés ou réunis avec leurs familles grâce à nos partenaires sur leur terrain, dont la Croix-Rouge. Par contre, il y en a toujours 142 qui sont placés en famille d'accueil transitoire. Il y en a 78 qui sont dans des centres d'accueil. Et en fait, il y a encore 170 familles qui sont à la recherche de leurs enfants. Donc, c'est encore une situation très, très volatile et pas l'idéal pour les enfants, loin de là.
Et que peut faire l'UNICEF pour ces enfants qui sont séparés de leurs parents?
Il y a tout un système qui s'est mis en place pour retracer en fait les familles grâce à nos partenaires sur le terrain et grâce à la coordination avec les autorités. Donc il y a des centres de transit qui ont été installés pour faire en sorte que les enfants qui sont en attente puissent être, supportés ou appuyés. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, l'autre urgence, c'est d'éviter le choléra dans les endroits où sont allés les milliers d'enfants qui ont fui la ville et ceux qui sont demeurés en ville. Donc l'UNICEF et ses partenaires sont à pied d'œuvre pour faire en sorte que les points d'eau soient chlorinés et qu'il y ait aussi des surveillances pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de propagation du choléra. Ensuite, il y a tout l'aspect nutrition des enfants et la santé des enfants qui doit demeurer une priorité au cours des prochains jours, puisque, comme vous le savez, hier, le gouverneur a décidé d'évacuer une dizaine de quartiers de la ville de Goma. Il avait des raisons de le faire, bien entendu. Donc, il faut absolument qu'on vienne en appui à ces milliers d'enfants qui sont en demande de protection et en demande de services. Donc, il faut retravailler sur les points d'urgence, mais aussi sur le retour à un semblant de normalité.
Vous parlez aussi des déplacés, parmi lesquels les enfants. Certains observateurs veulent avoir un rôle beaucoup plus accru de l'UNICEF en termes d'assistance en faveur de ces enfants. Et comment vous allez vous y prendre?
On va tenter dans les prochains jours de faire une demande de financement d'urgence. On espère que les donateurs vont répondre favorablement, pardon. Nous, ce qu'on regarde en termes de stratégie, c'est de combattre le choléra en rétablissant le réseau d'eau à travers la ville et dans les endroits où sont situés les déplacés. Il faut aussi qu'on ait un système de protection de l'enfance pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun abus à l'endroit des enfants et qu'il n'y ait pas plus d'enfants qui sont éloignés de leurs parents. Enfin, il faut aussi s'assurer qu'il y ait des fournitures d'urgence qui atteignent les populations qui ont fui Goma. Ça va bien entendu aux fournitures en eau, il faut aussi de médicaments, il faut aussi bien entendu continuer avec nos partenaires, d'autres agences des Nations Unies, faire en sorte qu'il y ait de la nourriture pour tous ces gens qui ont dû quitter la ville en précipitation.
Certaines organisations humanitaires et agences des Nations Unies procèdent à l'évacuation de leur personnel non essentiel. Qu'en est-il de ceux de l'UNICEF?
Il y a une partie, seulement une partie du staff de l'UNICEF qui a été relocalisé au niveau de Bukavu et certains à Sake, mais c'est momentanément, je veux dire, ça ne va pas durer. À partir du moment où il y a une accalmie et on peut revenir, ils vont tous revenir. Mais cela étant dit, la grande majorité des staffs sont restés à Goma et continuent à appuyer les populations et les enfants, que ce soit dans la ville de Goma ou à Sake.
Jean-Jacques Simon, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Une fois n'est pas coutume, la nouvelle des provinces nous retient à Kinshasa avec les lancements le week-end dernier d'une coalition dénommée Transparence en RDC. C'était à l'issue des journées sociales du Centre d'études pour l'action sociale CEPAS, édition 2021, autour du thème « Consolider la démocratie et promouvoir l'état de droit en RDC ». Pour les directeurs du CEPAS, l'idée est de permettre aux organisations de la société civile et aux mouvements citoyens de renforcer leur engagement au service du bien-être des Congolais. Le révérend père Alain Nzadi a sollicité à cette occasion un partenariat avec le ministère de la Justice pour le bon fonctionnement de cette coalition. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Avec les autres partenaires de la société civile, nous nous étions fixés comme objectif, collecter et publier toute information en lien avec la gestion de la chose publique, mettre en œuvre des initiatives citoyennes visant à contraindre dans le respect des lois de la République les mandataires à une plus grande redevabilité et citoyenneté et de redevabilité et fédérer leurs efforts pour défendre ensemble, dans une perspective de développement durable, d'égalité, de solidarité et de redevabilité citoyenne, l'avenir de notre cher et beau pays, le Congo. Conduire des plaidoyers et des lobbying pour l'amélioration de la législation en matière de transparence, de participation citoyenne et de redevabilité. Et enfin, contribuer au renforcement des capacités des institutions qui ont en charge les questions de transparence.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Écoutez cette question posée par une journaliste le 19 mai dernier lors de la conférence des Nations Unies.
Monsieur Mathias, la MONUSCO s'est engagée efficacement aux côtés des FARDC pour combattre les ADF à l'est de la RDC. Pourquoi ne l'avoir pas fait depuis longtemps et qu'est-ce qui explique cette détermination aujourd'hui?
Et puis la réponse du porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman.
Merci pour la question. Je ne pense pas qu'on ne l'a pas fait depuis longtemps. Il est vrai que le bombardement de camps des ADF, c'est quelque chose qui n'était plus arrivé depuis longtemps, mais c'est parce que ce sont des opérations qui prennent énormément de temps, qui nécessitent une planification extrêmement coordonnée avec l'armée congolaise. Vous le savez, on n'a jamais caché qu'il y a parfois des difficultés de coordination avec nos partenaires de l'armée congolaise, mais on avance, on progresse. Et dans le cadre de cette opération, de ce soutien à l'opération des FRDC, il y a une coordination avec les FRDC qui ont pris en charge un camp, ou le bombardement d'un camp clairement identifié, et nous qui avons pris en charge deux autres camps qui avaient été aussi clairement identifiés. Mais il faut toujours rappeler que ce type d'opération militaire demande une coordination, une planification extrêmement précise pour être absolument certain que les cibles sont des cibles militaires, des cibles ADF, et qu'il n'y a pas évidemment de victimes collatérales. Mais nous sommes engagés à continuer à soutenir effectivement de la manière la plus robuste possible les opérations qui sont en cours de l'armée contre les ADF notamment, mais aussi contre d'autres groupes.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD annonce la visite en RDC de sa directrice régionale. Madame Aouna entame cette mission à partir de ce dimanche 30 mai jusqu'au 5 juin. Déjà ce dimanche 30 mai, elle pourra visiter, sauf imprévu, les projets de cette agence en province. Le magazine des Nations Unies se donne le devoir de couvrir cette visite. Notez également dans vos agendas que le 1er juin, c'est la journée mondiale des parents et le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Sifamagourou et Bernardin Nyangui étaient au reportage. Jean-Pierre Elali Coco à la coordination et à la présentation. Toute l'équipe des MAGUN réitère sa compassion et son attachement à nos compatriotes de Goma qui passent des moments très difficiles. Vous pouvez donc retrouver cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Et au nom de cette équipe, je vous remercie de votre aimable attention. Bonne suite des programmes de la fréquence de la paix.